وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، alors donc ici on se retrouve pour un nouveau cours sur notre matière. Subhanallah, notre matière. Les sciences du Coran, ulum al-Quran. Tayyib. Donc on a refait le dessin. Alhamdulillah. On a refait le dessin, on va vous le Inch'Allah ta'ala, je vais prendre une photo et je vais vous l'envoyer. Je mets juste de la couleur pour que ça soit plus voyant. Et aujourd'hui, on va commencer par ça, c'est-à-dire à récapituler, réviser ce qu'on a vu la dernière fois. À travers ce dessin, pour bien assimiler les différentes formes de révélation. Je viens de voir qu'il y avait deux versets que j'ai pas mis dans les trois versets. Quatre versets, j'ai pas mis les versets, j'avais l'intention de le faire. Et qadar Allah ma shay fa'al, j'ai oublié. Donc vous voyez les versets qui sont dans le dessin. Il faudra remplir les cases vides et mettre les versets. Taïb. Alors j'envoie le dessin tout de suite. Hop. Voilà, c'est envoyé. Voilà, des deux côtés, c'est envoyé. Vous avez donc le dessin à disposition. Non. Alors, comme je vous ai dit, il y a juste les versets. J'ai complètement oublié. Donc, dans le cours précédent, on avait parlé du chapitre du Wahi, de la révélation. On avait vu les genres de révélation divine. On avait expliqué que la révélation divine, elle se faisait sous plusieurs formes. Donc, vous voyez à droite, dans le dessin, à droite, on commence toujours par la droite, la révélation au prophète. La révélation au prophète. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمُهُ اللَّهِ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Traduction rapprochée, hein. Allah Ta'ala ne parle, traduction du sens du verset hein, rapproché, Allah Ta'ala ne parle que par la révélation ou derrière un hijab, ou alors il envoie un messager. Taïb, à qui il a révélé? À qui Allah Ta'ala il a révélé? Donc, la première forme de révélation, c'est la révélation au prophète. C'est la révélation au prophète. Alors, la révélation au prophète, elle se fait de différentes manières. Toujours en bas à droite, la parole directe derrière un voile. Vous avez sinon par l'intermédiaire de l'ange. Et vous avez également l'inspiration ou rêve ou en étant éveillé. Donc vous m'excusez pour l'écriture, hein, j'ai pas une écriture. La super super écriture, walhamdoulillah. Si vous arrivez à comprendre et à lire, c'est le principal. Barakallahu fikoum, mashallah. Ensuite, par l'intermédiaire de l'ange. Par l'intermédiaire de l'ange, l'ange prend l'apparence de l'homme. L'ange, il peut prendre une apparence d'un homme. Hein. Et ensuite, par l'intermédiaire de l'ange toujours, la révélation se présente sous forme de son de cloche. Hein, le prophète, dans un hadith, il a expliqué ça, ça lui vient tout d'un coup comme un enchaînement de bruit. Des sons comme des sons de cloche. On sait que concernant la révélation, on sait que c'est dur hein, de recevoir. Le prophète, au début, ça a été très dur. La première fois, il a eu peur, il a eu des sueurs, comme vous le savez, avec Khadija, tout ça, Abu Bakr. À la Koulihal, en parlant de ça, avant de passer à la deuxième étape, la révélation à autre que les prophètes. En parlant de ça, ce matin, je disais aux élèves, les nouveaux, qui voulaient savoir comment on peut rester dans le rappel toute la journée, parce qu'on a expliqué, faut rester toute la journée dans le rappel, le plus possible. Alors, on a expliqué de quelle manière, c'est-à-dire, faut se faire un programme. Troisième tiers de la nuit, ça commence. Tu fais des invocations, tu te lèves au troisième tiers de la nuit. Ensuite, il y a Salat al-Fajr, très 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 important. Celui qui veut de la baraka, faut la faire à l'heure, le matin, tôt. Ensuite, les adhkar, tout ça pour bien commencer. C'est son programme du musulman. Il y a des savants qui disent pour celui qui est capable de lire le Coran, hein, de lire au moins un hizb par jour. Je me souviens, je ne sais plus qui disait ça, Cheikh, j'ai oublié un de nos grands savants, on lui a posé la question, il a dit un hizb minimum par jour, un hizb. Ensuite, tu as ton cours le matin, eux ils ont le cours le matin, donc ensuite ils ont leur cours le matin. Ensuite, entre-temps, s'ils ont des tâches ou du travail ou les enfants ou quoi, faites ce que vous avez à faire, mais restez toujours dans le rappel. Quand tu fais le ménage, il n'y a rien qui t'empêche de dire Subhanallah, Astaghfirullah, Subhanallah wa bihamdi, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Il n'y a rien qui t'empêche. Si ce n'est le shaitan. Ensuite, on leur a conseillé, justement, c'est pour ça qu'on vous le dit, la lecture. De prendre des livres qui sont bien, recommandés, etc. Et de lire. De lire, de s'instruire. Alors pour les débutants, on dit toujours de commencer par la Sirat al-Nabawi, la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, ça c'est quelque chose de. La vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons. Ala kulli hal, pour rester dans le rappel, il faut se faire un programme. Si tu as un programme, ça va le faire. Si tu n'as pas de programme, tu auras toujours un, oh, j'ai pas eu le temps, oh, je devais faire ça, oh, je devais. Si tu te fais un programme et tu t'y tiens, c'est bon. Inch'Allah, ça va le faire. De 8 à 9, j'ai ça. De 9 à 10, j'ai ça. De 10 à 12, je fais ça. De 12 à 14, je fais ça. De 15 à. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y en a, ils vont dire, il est fou. Il est fou, c'est toute la journée, hein, talab al-ilm. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais voilà, nous, pour nous, c'est, on essaye de faire ça. Voilà. On essaye de faire ça. On sait, comme le disent les savants, tout le monde ne sera pas talib al-ilm. Faut des boulangers, faut des mécaniciens, faut des. Tout le monde ne sera pas talab al-ilm. Les savants, ils disent, hein. Et chacun, il est prédisposé à quelque chose. Il y en a, ils ne sont pas prédisposés aux études. Hein. Il y en a, ils sont disposés à faire la guerre. Il y en a, ils sont disposés à faire la couture. Eh oui, plus de 10 heures par jour. Il y a des savants, ils disent, si tu n'étudies pas 16 heures, tu n'es pas en talab al-ilm. Je crois que c'est Cheikh Raslan, Allahu alayhi, 16 heures. Mais voilà. Ah, il y a celui qui veut être un talab al-ilm et il y a celui qui veut pas être un talab al-ilm. Après, c'est un choix. Moi, personnellement, mon expérience personnelle, c'est que si on n'est pas dans le rappel, on est forcément dans la dunya. Donc, voilà. Ça, c'est mon expérience, hein. Si t'es pas dans le rappel, tu seras dans quoi? Voilà. Donc, si on choisit le rappel, autant choisir le vrai rappel. Talibul'in, faire du zik, bien faire ses adorations. Le talibul'in, ça ne veut pas dire délaisser les. Faut être pieux en vérité, faut être pieux. Faut être pieux. Faut être vertueux. Non. Donc ce sont des choses importantes. Faut demander à Allah. Hein. Faut demander à Allah. Après, voilà, si on cherche 100% la vie mondaine. Wallahu alam, si on pourra acquérir, si c'est compatible, la vie mondaine et le talibul ilm. Wallahu alam, si c'est compatible. Sauf un faux talibul ilm qui ramasse l'argent et voilà, il trompe les gens. C'est un faux talibul ilm, en fait. C'est pas un. C'est son business. Astaghfirullah. C'est son business. Wallahu al-musta'an. Mais le vrai talibul ilm. Le vrai étudiant, le vrai prêcheur. Regardez les savants. Vous connaissez des savants qui sont riches? C'est rare. Hein? Les anciens qui ont réussi, ils n'ont même pas eu le temps de se marier. Je ne sais plus c'était quel imam. Allahu Akbar. Je ne sais plus. Je crois que c'était pas Cheikh Al-Islam ou l'imam Ibn Taymiyyah. Je ne sais plus c'est quel imam. Ils lui ont ramené une femme. Elle s'est pouponnée. Elle s'est pouponnée, tout ça. Elle s'est pouponnée, elle a tout fait. Ils lui ont ramené une femme, un grand imam, j'ai oublié c'est qui. Elle s'est pouponnée et tout. Et Starfelon là, il l'a pas calculé. Il l'a pas calculé. Ouais, il l'a pas calculé, elle s'est énervée, elle est partie ou je sais plus quoi. Alors. Alors, si je peux me permettre, c'est un peu dur de mélanger le travail et les études. Ça tire toujours d'un côté, soit manquement dans le travail ou dans les études. Alors en fait, moi je vous donne la recette, hein. Vous savez que j'ai 20 ans d'expérience, même plus, hein. Donc vous savez que je peux vous donner des recettes. Croyez pas que j'ai été, mashallah, croyez pas que j'ai été pendant toutes ces années 24-24 talibul ilm. Il y a des fois on était vraiment en difficulté. Pour venir en Angleterre, je vous donne un exemple. Pour venir en Angleterre, vous savez que pour venir en Angleterre, c'est pas comme la France. C'est pas du tout le même système que la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ils n'ont pas un système de un peu assisté. Je donne des exemples, Inch'Allah ta'ala. C'est un exemple. Par exemple, en Angleterre, ils ont un système qui n'est pas un système assisté. Ça veut dire que quand tu viens ici, il faut travailler. Faut travailler. Pour avoir les papiers, pour avoir. Tu te débrouilles, mais faut que tu. Donc, il a fallu charbonner. Entre les cours, entre le travail, etc. Donc, on s'est déjà retrouvé dans des périodes où on est entre le travail et le talibul ilm. Mais en fait, je ne sais pas si vous l'avez écouté, on a fait un cours le matin, très 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 instructif. Normalement, on vous l'a partagé. Le cours où on parle, voilà, comme quoi il y a des frères, ils arrivent. Il y a même des frères qui ont témoigné en plein cours qu'ils étaient ils étaient au travail pendant qu'ils écoutaient le cours. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, celui-là. Normalement, on vous l'a partagé. Inch'Allah, très très moufid. On a fait un rappel pour dire aux élèves du matin, faites en vérité que il faut connaître ses priorités. Il faut connaître ses priorités. Et celui qui a mis le talib al-ilm comme sa priorité, voilà, la détermination. Oui, je vais essayer de vous le retrouver. Normalement, on l'a posté tellement il était profitable. Vous savez, pendant le cours, il y a un frère qui a dit, moi, je suis au travail, j'arrache des tapis. Ce rappel-là. Il y a un frère en plein cours, il est intervenu, il a dit, c'était mercredi. D'accord, je vais regarder. Normalement, on l'a partagé, Allahu alam. On a donné des consignes pour la motivation, la détermination. On a dit que si tu es motivé, même pendant que tu es au travail, tu vas te débrouiller, tu vas écouter. Ah, c'est partagé, d'accord. Alors, pour revenir et pour être plus clair par rapport à cette question, je vous le dis franchement. Je vous le dis franchement. Bon, c'est pas donné à tout le monde, mais celui qui veut sa subsistance et en même temps il veut et il veut garder sa priorité du talib al-ilm, il veut pas que le travail ou la subsistance elle vient le gêner, l'empêcher dans talib al-ilm, il veut consacrer la plupart de son temps dans le talib al-ilm. Écoutez bien, il va falloir. C'est ce que font la plupart, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Les vrais étudiants, ils font tous ça. Nous, c'est une des raisons pourquoi on a fait un institut, je vais vous le dire, hein. C'est pas la raison, mais c'est une des raisons. C'est quoi leur recette? Bah, en fait, ils font une activité, une cause de subsistance qui n'empiète pas sur le talib al-ilm. Je vais vous donner un exemple. Tu ouvres une maktaba. Tu ouvres une maktaba. Tu vends des livres, tu vends des. Ce que tu veux, du miel, des camises. Tu ouvres une maktaba. Même pendant que tu vends. Moi, ça a été mon cas. Une année, on était au bled, on avait une maktaba. J'étudiais. J'étais dans la maktaba, j'étudiais. Les clients, ils venaient. Quand ils arrivaient, j'éteignais ou mon dors où je fermais mon livre. Je les sers. Ils partent. Je rouvre mon livre, j'étudie mon dors. Je réécoute mon dors. Qu'est-ce qui m'empêche? En même temps, je suis en train de gagner ma subsistance et en même temps, je suis en train d'étudier. C'est comme ça qu'ils font. Hein. Ou alors, ils ont des. Comment on appelle ça? Ils ont des maisons d'édition. Par exemple, des étudiants qui sont à la Mecque. En Arabie, qui étudie, ils ont des maisons d'édition. Ils ont juste à écrire des livres et ça leur apporte une subsistance. Il y en a, ils vendent des formations. Il y en a, ils ouvrent des instituts. Ça commence à se faire beaucoup, les instituts, j'ai remarqué. Allahu a'lam. Al-Muhim. Donc, En fait, il faut essayer de se trouver une activité qui ne va pas t'empêcher d'étudier. Tu peux faire ton activité et en même temps travailler. Ou si ton activité, elle déborde, elle ne te prend pas tout ton temps et après, tu n'as plus le temps. En fait, c'est ça. Même, il faut être, il faut bien étudier les choses. Regardez. Même si par exemple, on choisit une activité qui va te manger tout ton temps, eh bien ce que tu fais, ce que font la plupart, c'est que il va s'investir dans une activité, mais il va pas s'investir physiquement. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il s'associe avec quelqu'un d'autre pour un restaurant, dans un restaurant. Khlas. Je connais un frère, il avait fait ça. Je suis associé, mais moi, je mets pas les mains dans le restaurant. Ni mes pieds, ni Walou. Je suis associé. Il touche une certaine rente par mois. Ça, ce sont des idées. Il y a des gens, ils font comme ça. Alors, la plupart des gens, ils vont pas vous dire. Moi, je vous le dis, hein, mais les gens, ils vous diront pas comment ils font, etc. Mais faut analyser un petit peu. Et vous verrez que vous croyez que tous les étudiants en Arabie, par exemple, même des étudiants, ça y est, ils sont diplômés, ils sont avec les ulama, comment ils vivent? Comment ils vivent? Ben, c'est comme ça. Il y en a qui font du tijara, il y en a qui vendent du miel, il y en a, ils ont des maisons d'édition. Voilà. Mais ils ont essayé de trouver des activités qui ne les empêchent pas de continuer ce qu'ils font, d'étudier. Voilà. C'est une question de quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Allah, il te facilite si tu cherches une activité qui ne va pas t'empêcher d'étudier. Hein. Allah, il va te faciliter. Faut juste pas avoir peur et se lancer dans. Faut juste pas avoir peur. Il y en a, ils ont investi dans l'immobilier, ils ont un appartement, ils le louent tous les mois, ils ont une rente. Pas besoin de se fatiguer. Pas besoin d'avoir du cambouis dans les mains ou tous les mois, il a une rente. Etc. etc. C'est une idée. Voilà, ce sont. Wa iyyakum, wa iyyakum. Wa iyyakum. Taïb. Alors, on en était où? La révélation à autre que les prophètes dans le dessein, toujours. La révélation à autre que les prophètes. Pour certaines créatures qui ne sont pas douées de raison. Alors, on sait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il révèle, inspire un des créatures qui n'ont pas de raison. Alors, quand on dit sont pas doués de raison, c'est les insectes, les animaux, choses comme ça, hein, qui ne sont pas doués de raison. On a le verset Wa awha fi kulli sama amraha. Donc, ce verset, hein, je vais chercher le numéro là. Je vais vous chercher le numéro du verset. Comme ça, vous saurez, même si vous voulez noter en dessous pour vous. Alors, Abu Nusayba, papa, salam alaykoum, wa alaykoum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'à notre niveau, on peut écrire des livres dans la religion comme activité pour la subsistance? Malheureusement, si c'est écrire des livres sur les sciences religieuses, non. Parce que déjà, pour un étudiant, pour un étudiant, les savants, ils conseillent, ils disent attention, faut faire attention, l'étudiant, il ne doit pas se précipiter dans. Alors, déjà, pour ouvrir des instituts, pour faire des livres, des écrits, il ne doit pas se précipiter, l'étudiant. Faut vraiment être. Avoir le. C'est une science, hein, c'est pas comme ça. Tiens, je vais faire ci, tiens, je vais faire ça. Maintenant, si vous me dites c'est des livres autres que les sciences religieuses, si ça rentre dans le cadre du halal, si ça rentre, si c'est pas des livres de religion, tant qu'il n'y a pas de preuve qui vient l'interdire, Naham, il n'y a pas de mal. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un il fait des livres de cuisine ou des livres de sport, il est spécialiste dans le sport. En conformité avec le halal, bien entendu, hein. Qu'est-ce que ça veut dire conformité avec le halal? Je pense que vous avez compris. Avec la législation, vous avez compris. Si on va faire des livres de sport, on va pas mettre des femmes qui sont mutabarrija, qui ne sont pas voilées, etc. C'est un exemple, hein. Ou des hommes en short, etc. C'est un exemple, hein. Mais sinon, écrire des livres, oui, c'est vrai, dans la question, c'est des livres dans la religion. Faut être, franchement, faut avoir un bagage. Faut avoir un bagage. On peut pas écrire des livres sur la religion comme ça. Ça, c'est pas moi, hein, c'est ce que disent les savants. Hein. Vous savez que même moi, j'aimerais bien écrire des livres, hein, mais je me sens pas. Comme on fait à l'institut des PDF, écrire, comme on va propager le PDF, etc. À la rigueur. Ça, par la grâce d'Allah, on en a la possibilité. On a la possibilité, mais. Ou un PDF que je voulais écrire aussi sur le comportement, ça, on a la possibilité, mais après, faire des ouvrages et tout. Moi, j'estime, je me lance pas pour le moment dans. Et si on ne fait que traduire livres de savants de l'arabe vers le français? Alors, compétent, le souci qui se pose, c'est que pour traduire des livres des savants, faut pas être uniquement arabophone. Pour traduire des livres de savants, faut avoir un minimum de connaissances dans les sciences religieuses, sinon on peut se tromper. Donc si on a ces qualités, on a la langue arabe et on a des connaissances dans les sciences religieuses qui nous permettent de traduire correctement ce que veut dire le savant, et pas du mot à mot où peut-être que ça va induire les gens en erreur, là oui on peut. Mais attention, hein, je vous préviens à l'avance, le milieu de la traduction, le milieu dans la traduction, hein, chez les savants, chez les étudiants, tout ça et tout, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Pourquoi? Je crois qu'on m'avait posé la question et j'avais fait une recherche sur ça. C'est que les savants disent, tu n'as pas le droit de traduire un livre de savant sans que la maison d'édition, sans l'autorisation de la maison d'édition. Alors, je vais détailler un peu parce que ça va plus loin que ça. Il y a des savants qui disent, tu peux traduire si c'est pour faire darwa, faire partager le travail des savants. Mais si c'est pour en tirer un profit, faut demander la permission à la maison d'édition. Sinon, c'est. D'ailleurs, vous remarquerez, en arabe, tu remarqueras, en français, je ne sais pas, je pense aussi, hein, si en français aussi, tu remarqueras, je crois qu'ils ont exprimé cela par l'expression, la phrase tout droit réservé à la maison d'édition, quelque chose comme ça. Taba'a mahfouza. En arabe, c'est comme ça, des choses comme ça. Ça veut dire que. Barakallahu fikoum pour les versets. Mashallah. Très bien, très bien, très bien. Donc ça signifie que. Il n'est pas permis de traduire une maison d'édition. Il y en a, ils l'ont fait sans pitié normale. Hein. Ils ont pris les livres de Sheikh Al-Fawzan, ils traduisent. Donc nous, on donne des cours, c'est pas pareil, on fait la traduction. Nous, on estime que, voilà, les livres, ils ont été faits pour quoi, sinon, les livres? Ils ont été faits pour quoi? Pour rester dans le placard et personne n'en profite. Mais après, pour prendre un billet, par exemple, je vais prendre le livre de Sheikh Al-Fawzan sur les actes annulatoires de l'islam. Tiens, je vais le traduire, on va en faire en français et on va le vendre 15 euros. Ça, normalement, il faut demander la permission à la maison d'édition. C'est pour ça que c'est. Après, il y a des maisons d'édition qui donnent la permission. Il y en a d'autres. Il y a des livres de savants où tu peux le traduire toi-même. il n'y a pas de. Par exemple, il y a des livres d'anciens où il n'y a pas d'exclusivité ou des choses comme ça. Voilà, tu as envie de le traduire, tu le traduis. Mais il faut bien se renseigner, il faut poser la question à un savant. C'est pas comme ça, tu viens et tiens, tiens, je vais prendre des livres et je vais traduire. C'est un peu. Naham. Après, celui qui fait une maison d'édition, il peut se mettre en contact avec les maisons d'édition, etc., et trouver un terrain d'entente, et ça peut devenir son business. Façon de parler, hein. Ça peut devenir son activité. Parce que les étudiants qui ont des maisons d'édition, ils font comment? C'est comme ça. Je crois même que El Bayina, je ne sais pas comment ils ont fait, mais il me semble que El Bayina, ils ont l'autorisation de Mouassasat Kutub Cheikh Al-Uthaymeen. Il m'a semblé voir ça, qu'eux, ils avaient l'autorisation de traduire les livres de Cheikh Al-Uthaymeen par la grande maison d'édition de Cheikh Al-Uthaymeen. Wallahu a'lam, hein. Alors je me dis, subhanallah, ajib, hein. Wafik barakallah, Cheikh Papa, il n'y a pas de souci. Alors, on en était où, nous? Alors, la révélation à autre que les prophètes. La révélation à autre que les prophètes. Après, je comprends par rapport à la réponse précédente, par rapport à la question précédente, parce que on est tout à fait conscient qu'avoir des enfants en bas âge, c'est un, comment on appelle ça, c'est un boulot à plein temps. C'est un boulot à plein temps. C'est un boulot à plein temps. Wallah al-musta'an. Donc, c'est ça. Pour vous donner des conseils sur ça, il faudra que je réfléchisse. Les enfants en bas âge, boulot à plein temps pour étudier, c'est. Mais en tout cas, rappelez-vous ce que je vous ai dit une fois, au tout début, je vous le confirme, hein. C'est pas péjoratif, c'est pas de la critique, il n'y a pas de sous-entendu ou quoi que ce soit. On est là pour vous faire gagner du temps et éviter que vous tombiez dans des pièges. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. Vous allez mettre le paquet, vous allez vous sacrifier. Oh, j'ai pas le temps d'apprendre l'arabe, j'ai pas le temps d'apprendre le tawhid, j'ai pas le temps d'apprendre les sciences religieuses. Je vais mettre le paquet sur mes enfants qu'ils apprennent le Coran. Arriver à la majorité, ça les intéresse plus. Qu'Allah nous en préserve, hein, ça les intéresse plus. Toi, tu es arrivé à un certain âge, ça devient plus difficile d'apprendre, tu t'es sacrifié, t'as rien appris, et tu vois que eux, les nouvelles générations, à l'adolescence, laisse-nous tranquille, etc. Vous êtes trop dur, ou des choses comme ça, comme on a entendu, qu'Allah nous en préserve, chez beaucoup de gens. Donc, ne vous sacrifiez pas. Ça ne veut pas dire ne faites pas votre devoir, c'est pas ça qu'on est en train de dire, hein. Faut faire son devoir. D'ailleurs, on ne pourrait pas vous en empêcher, l'amour maternel, etc. À part Allah, personne ne pourra vous en empêcher. Mais faites attention, vous ne faites pas avoir. Vous faites pas avoir. Vous allez mettre le paquet et. Wafikum barakallah. Wallah, c'est Allah qui guide. Peut-être vous ne savez pas, ils vont grandir. On ne souhaite pas, mais ils vont grandir, ils vont vous tourner le dos. J'ai perdu 10 ans avec les enfants en bas âge et l'handicap, subhanallah. Après, bon, je ne connais pas votre situation ou quoi, mais ça dépend de ce que vous appelez par perdu, parce que là, c'est un autre cas dans le sens où si c'est des enfants qui sont malades ou handicap ou quoi. S'ils sont pas, si demain ils sont pas multazim ou quoi que ce soit, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Vous avez fait votre devoir, vous allez être récompensé. Normalement, vous n'allez pas regretter. Sauf, c'est vrai, c'est très dur, hein. C'est vrai. Même moi, je parle, mais je peux même pas me mettre à la place. Mais là, on parle de vraiment je me suis laissé submerger par mon rôle de maman, je voulais tellement bien faire que j'ai pas. Alors je cherche le. Il est parti le. Alors où est-il? Je me suis laissé submerger par mon rôle de maman, je voulais tellement bien faire que j'ai pas appris ma. Ah, subhanallah. Subhanallah. Oui, c'est ça. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule, hein. Il y a, parce que c'est comment on appelle ça, l'instinct maternel. La mère, elle se sacrifie, elle t'envoie dans les meilleures écoles, elle se sacrifie. Mais vous savez que c'est Allah qui guide. Il n'y a rien qui dit, et il y a énormément de cas comme ça. Arrivé à la majorité, la mère, la pauvre, elle pleure. La mère, la pauvre, elle pleure. Et elle se réveille, elle se dit, Subhanallah, regarde, tout ce que j'ai fait, ils me tournent le dos, ils veulent même pas faire la prière, même pas aller à la mosquée, ils veulent même plus lire le Coran. Et moi, je me suis sacrifié, je sais même pas lire le Coran. Ou alors, je connais même pas les sciences religieuses, j'ai même pas appris. Et voilà le résultat. Donc, on regrette. On se dit, j'aurais dû faire le minimum, m'occuper de mes enfants, ça c'est normal, c'est obligatoire, etc. Pas négliger les sciences religieuses, etc. Naam. Wallahu a'lam. Tayyib. Je ne sais même plus pourquoi on en est arrivé à parler de ça. Al-Muhim. Al-Muhim. La révélation à autre que les prophètes. La révélation à autre que les prophètes. Pour certaines créatures, ce ne sont qui ne sont pas douées de raison. Pour certaines créatures qui ne sont pas douées de raison. Vous savez qu'Allah Ta'ala, comme on l'a dit, il inspire les animaux, les insectes, etc. Deuxième manière, révélation à autre que les prophètes, pardon, les humains qui ne sont pas des prophètes. On a déjà expliqué par l'inspiration. Rêve, éveillé, etc. Pour les humains. Également pour les anges. Alors, comment ça se passe pour les anges? On a expliqué. Vous connaissez le hadith. Lorsqu'Allah Ta'ala, il veut révéler quelque chose, il y a tout un processus, hein. Les anges, avant de recevoir la révélation, ils sont en panique, ils frémissent de peur. Jusqu'à ce que Allah Ta'ala il révèle à Djibril. Djibril il révèle aux autres anges. Il y a tout un processus, ça. Hein. C'est dans un hadith, c'est mentionné dans un hadith. Allah Ta'ala il révèle également aux anges. Donc, juste une petite faïda au passage. Il n'y a rien qui dit que ça ne peut pas arriver. Que n'importe qui fasse un rêve et que ce soit un rêve qui ait un sens, un véritable sens. Hein. Il y a des gens comme ça, ils font des rêves et Subhanallah, c'est des vrais rêves. Je vous donne un petit exemple, Wallahu a'lam, de ce qu'on dit. Hein. Wallahu a'lam, Wallahu a'lam. Il y a plein de signes comme ça. Il y en a qui disent si tu rêves de la Kaaba, c'est que tu vas aller là-bas. C'est que tu vas aller. Faire un pèlerinage ou une omara ou Wallahu a'lam. Il y a plein de choses comme ça concernant les rêves. Il y a des choses qui sont authentiques, il y a des choses qui ne le sont pas. Mais dans les rêves, il y a du vrai. Hein. Il y a du vrai. Wallahu a'lam. Alors, le dessin, je le mets de côté. Ça. Alors, on tourne la page. Qu'est-ce qu'on a? Thaniyan, kayfiyanuzulil Qur'an. Alors, le chapitre suivant, c'est comment est descendu le Qur'an. Donc, même si on a déjà vu dans le livre précédent, si on a déjà vu ça, c'est pas un souci. Ça va nous faire de la révision. Parce qu'après, dans d'autres ouvrages, peut-être qu'il y a des chapitres, on ne le reverra plus. Donc, il faut vraiment, même si on les voit plusieurs fois, c'est bien, parce qu'après, ça va rester, peut-être même ça va rester toute votre vie, vous allez vous en rappeler. Quand on a étudié quelque chose plusieurs fois, on l'a revu, on révise, etc., quelqu'un qui ouvre bien sa mémoire, qui concentre bien sa mémoire, ça peut rester longtemps. Ça peut rester longtemps s'il y a la baraka dans sa science. Bien qu'il faut regarder ses notes, il faut avoir révisé en temps voulu. Et puis, qui dit que vous ne pourrez pas, Inch'Allah Ta'ala, donner des cours. Donner des cours. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple. On sait que ça se fait. C'est assez rare. Wallahu alam, hein, je ne suis plus dans ce circuit. Étant donné que les enfants, ça y est, ils sont grands. Je ne suis plus dans ce circuit, mais pour ceux qui ont des petits-enfants, si une sœur, par exemple, qui a étudié, qui a un minimum, elle peut prendre un groupe d'enfants, de petits-enfants, et leur faire des petites bases comme ça. C'est mieux que de ne rien faire du tout, hein. C'est mieux que de ne rien faire du tout. Subhanallah. Peut-être que certaines parmi vous, des étudiantes, même des étudiants, quand ils vont acquérir des bonnes bases à l'institut, un niveau, il n'y a rien qui vous empêche, les enfants de vos copines, des sœurs, vous prenez un petit groupe et hop, il y a quoi qui empêche? C'est pas haram, hein? Vous n'êtes pas en train de faire darwa sur YouTube ou... Vous êtes utile pour la communauté. Vous prenez... Wajibat al-Mutahatimat, les trois fondements. N'importe les cours que vous avez faits, que vous met... la condition c'est de maîtriser. Vous avez bien compris les cours. Les savants disent tu peux transmettre si tu as bien compris. Si tu as bien compris les cours, khalas. Tu transmets. Et ça vous fera une petite expérience. Avec les enfants, on se forme. Et après, vous pourrez faire avec des groupes de sœurs. Tant que c'est des, comment on dit, genre de cercle fermé, c'est pas de la darwa, venez tous, on va ouvrir une Zoom. Non, ça, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Mais tant que vous faites des petits cours à la maison, des... qu'est-ce qui vous en empêche? Vous êtes en train d'étudier ou pas là? Vous apprenez les sciences religieuses. Vous n'allez pas faire des... inventer du ilm ou... Alhamdoulillah. La personne qui est capable qu'elle le fasse. Quand elle a maîtrisé, elle commence à bien maîtriser le sujet. Alhamdoulillah. Celui qui est capable, quand il n'a pas compris quelque chose, il nous concerte. Attendez, je vais demander. Si on te dit que tu as fait une erreur, tu dis attendez, je vais demander. Si c'est vrai, excusez-moi, j'ai commis une erreur. Si c'est pas vrai, non, c'est comme ça. On l'a appris comme ça, les ulama, ils disent c'est comme ça, c'est vous qui croyez que c'est une erreur. Par exemple, hein, les enfants. Parce que si on reste tous dans notre coin, ils vont apprendre quoi, nos enfants? Comment on va faire? Donc, on va le commencer, hein, on va quand même le commencer, le chapitre. Comment le Coran est descendu? La manière de la descente du Coran. Nazala al-Qur'an al-Karim fi shahri Ramadan. Vous le savez tous, ça. Alors, si on va un peu vite dans la lecture, c'est juste pour les choses qu'on connaît déjà. Quand c'est nouveau, on va doucement. Là, c'est pour gagner du temps. Si on va lire un tout petit peu plus vite que d'habitude, c'est par rapport au temps déjà qui nous reste et également parce que c'est les choses qu'on a déjà vues. Hein. D'accord? Alors, نزل القرآن الكريم في شهر رمضان كما قال الله تعالى. Le Coran est descendu pendant le mois de Ramadan. Vous le savez tous. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan, celui pendant lequel est descendu le Coran, Huda, guidé, l'innes pour les gens. وبينات éclaircissement من الهدى والفرقان. Sourate Al-Baqarah, verset 185. وذلك في ليلة القدر. Également, le Coran est descendu pendant la nuit du destin. Comme vous le savez, on l'a déjà vu. Sourate Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Inna anzalnahu fi laylatin qadr. Fi laylatin qadr. Sourate Ad-Dukhan, verset 3 et 4. Sourate Al-Qadr, verset 1. Si vous trouvez que ça va trop vite, dites-le moi franchement. Dites-le moi. J'irai plus doucement. C'est parce que ça, on est censé déjà l'avoir étudié. Naham. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ما شاء الله بارك الله فيكم، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، بارك الله فيك شيخ بابا. Je regarde chez les frères, y avait-il des questions que j'ai sautées? Non, il n'y en avait pas. D'accord. Alors, Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, fi tafsir l'ayat, dans l'exégèse, là, plutôt l'explication du verset, unzila al-Qur'an jumlatan wahida. Donc les versets qui disent que le Coran il est descendu pendant Laylat al-Qadr, qu'il est descendu pendant le Ramadan, Ibn Abbas il a dit, il est descendu, c'est-à-dire en une seule fois. Laylat al-Qadr, la nuit du destin, le Coran il est descendu en une fois, entier. On l'avait vu ça, hein, au premier ciel, plutôt au ciel, c'est pas au ciel de la dunya. Hein, au premier cieux de la dunya. Naam. فكان الله ينزله على رسوله بعضه في أثار بعض ثم قرأ. Donc, puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre sur son messager petit à petit. Puis il lui a fait lire وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورترناه ترتيلا. Sourate al-Furqan, verset 32. Sourate al-Furqan, verset 32. On donnera la traduction par la suite, inshallah ta'ala. والآيات سورة الفرقان هذه تشير إلى أن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة. Alors, ici on nous dit dans notre ouvrage que ce verset-là, Sourate al-Furqan, verset 32, il signifie que à l'époque, les livres antérieurs, les livres d'avant, attention, ce sont des livres célestes. Hein, on parle des livres célestes. MashaAllah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense. Ensemble, les deux étudiantes, mashallah, en même temps. Taïb, Surat al-Furqan, verset 32. Donc, on nous dit que l'explication de ce verset, c'est qu'avant, les livres précédents, les livres antérieurs, qu'Allah Ta'ala a descendu, il est descendu en une seule fois. Mais le Coran, il s'est démarqué. Le Coran s'est démarqué par rapport à avant, c'est que le Coran, lakin tamayyaza al-Qur'an al-Karim anha bi nuzulihi mufarraqan kama huwa ma'lum. Mais ce qui c'est le Coran s'est démarqué par rapport aux autres livres célestes, c'est que le Coran il est descendu en une fois mais après en petite partie sur le prophète. Tamam? Alors que c'est pas le cas des autres ouvrages. إضافة إلى أنه نزل جملة واحدة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه ومن ثم فقد أفادنا هذه الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن القرآن الكريم تنزلا نزول جملائي ونزول مفرق. Alors en gros on nous dit ici que le Coran il est descendu de deux manières. Il est descendu de la manière la descente entière générale et la descente par partie. Ça, vous connaissez déjà. Alors, ici, dans les points suivants, on a quand même le détail. On a quand même le détail. Qu'est-ce que ça signifie, la descente générale, c'est-à-dire en une seule fois, tout entier, le Coran? Le tafsir de Ibn Abbas nous indique, par rapport à la parole d'Allah Ta'ala qui nous dit, et le Coran, nous l'avons fait descendre le jour de Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Par rapport à ce dalil, نعم وهذا النزول متعلق بأهل السماء الدنيا إذا ليس في أحكام وأثار يتعلق بأهل الأرض ولا ينبغي السؤال عن كيفية وأحواله لأن. Donc là, on nous dit que on ne doit pas demander, surtout, hein, on ne doit pas demander. Ça fait partie de la croyance des gens de la Sunna de ne pas demander comment il est descendu le Coran et tout ce qui touche dans les détails, comment il est descendu, Parce que ça fait partie des choses de l'invisible. Taïb, et ça peut rentrer, ça peut mettre des ambiguïtés. Parce que ce sont des choses que seul Allah Ta'ala connaît. Mais, لكن يمكن القول إن الحكمة من هذا النزول هو بيان شرف هذه الأمة وفضلها أو فضلها. Par contre, on nous donne une faïda ici. On nous dit, il est possible, par contre, de dire que la sagesse de la descente du Coran, c'est que parmi les sagesses hein, de la descente du Coran, c'est pour éclaircir la noblesse de cette communauté et son mérite, la communauté musulmane. Binuzul Coran biyadi, du fait que le Coran il est descendu selon ses caractéristiques propres, hein, la manière dont il est descendu, du fait qu'il est descendu une fois entièrement, puis une fois petit à petit. Ça, c'est pour éclaircir une particularité dans la noblesse de la communauté musulmane et les mérites de la communauté musulmane. Également, hein, parmi les sagesses, c'est pour informer que ça y est, c'est le dernier livre qui est descendu au dernier messager, qui vient clôturer tous les livres célestes. Ensuite, on a un autre point. On nous dit deuxièmement, thaniyan, nuzul al-mufarraq. Donc là, on vient de parler de la descente générale, c'est-à-dire quand il descend d'un coup entièrement le Coran. Maintenant, on va parler de la manière, la descente petit à petit sur le prophète aïssatou salam. Bada nuzul al-Qur'an ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ghar al-Hira. Donc, comme vous le savez, la descente du Coran sur le prophète Mohammed aïssatou salam, elle a commencé dans la grotte de Hira, hein, comme on va le voir à la suite. Wa huwa fi arba'in amin, 40, c'est à l'âge de 40 ans pour le prophète Mohammed aïssatou salam. Et tout le reste, donc ça a commencé là quand il avait 40 ans, et petit à petit ça s'est descendu par morceaux, hein, façon de parler, par morceaux, pendant 23 ans. 23 ans de son message. Et il est mort, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à sa mort en fait. Il a tuwaffi wa umruhu 63 sana. Alors qu'il avait 63 ans, il est mort. On a vu précédemment, on nous dit que la descente du Coran, elle se démarque par rapport aux livres, les autres livres célestes antérieurs. Elle se démarque, la descente du Coran. حتى كان ذلك مثار تعجب من الكفار وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة سورة الفرقان verset 32, on nous dit ici que même les koufars, ils se sont étonnés de la manière dont est descendu le Coran. Ils ont dit, on remercie nos deux étudiantes hein, pour le verset, et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement. Ensuite, on nous dit, parmi les sagesses de la descente du Coran en plusieurs fois, par morceaux. On nous dit sans aucun doute que la descente du Coran, selon ses caractéristiques, ça n'a pas été le cas pour les livres célestes précédents. En tout cas, pour le Coran, il y a un immense et grand profit. Parmi ces profits, parmi ses profits, le raffermissement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça le raffermit. Il me semble qu'on avait expliqué ça dans les cours précédents. On avait dit que, je sais pas si vous vous souvenez, on avait expliqué, hein, dans le livre précédent, on avait expliqué que le Coran, le fait qu'il est descendu en plusieurs parties, c'était par rapport à des situations qui se produisaient. Des fois, ils étaient dans la difficulté, des fois, ils attendaient la révélation, et ça arrivait par rapport à des situations précises, à des moments précis. Et ça raffermissait les musulmans. Mashallah, barakallahu fik, c'est bien de se rappeler. C'est bien, il faut se rappeler. Effectivement, effectivement. On avait parlé de ça déjà. On avait parlé des situations précises. Naam. Alors, bisabab ma yulaqihi min anat al-mushrikin. Alors, on nous donne l'exemple ici. On nous dit par exemple par la cause de ce qu'ont vécu les compagnons par rapport aux associateurs. Oui, tayammum également. Également la persécution des associateurs. Lorsque le Coran descendait pour les raffermir, les croyants, et pour les tama'inina, c'est-à-dire pour leur donner une certaine quiétude, une certaine sérénité dans le cœur. Hein? C'est une des sagesses, subhanallah, et on le voit, hein, subhanallah. Subhanallah, une des sagesses. Également, Taïsir, Hifdhuhu wa fahmuhu wa al-amalu bihi ala sahaba. Également, regardez cette faïda. Le Coran, une de ses sagesses, c'est que ça a été une facilité pour les compagnons, pour le mémoriser, pour le comprendre et pour le mettre en pratique. Le fait qu'il descend petit à petit, ça a été une facilité pour les compagnons, pour le mémoriser, pour le comprendre et pour le mettre en pratique. Et également, ça leur a donné du raffermissement, hein, en eux-mêmes. Parce que s'il était descendu en une fois, on nous dit, la communauté qui était une communauté de au milieu, comment on dit, illettrés, la plupart des gens, ils ne lisaient pas, etc. Ça aurait été dur pour eux. Ça aurait été dur pour eux. La descente en une fois, pour des illettrés, ça, des gens qui lisent pas, qui écrivent pas, ça aurait été très dur. Vous voyez la sagesse que le Coran, il est descendu petit à petit? Subhanallah. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va se contenter de cela pour aujourd'hui. Alhamdulillah, ça nous rafraîchit la mémoire parce que faut que ça rentre, hein, faut que ça reste. Hein. Tout ce qu'on fait, faut que ça reste. C'est important. D'ailleurs, vous avez vos notes, vous avez les cours, ils sont là. Mais c'est important de se rappeler, de. C'est important. D'ailleurs, ceux qui se rappellent et ceux qui comprennent bien, c'est ceux qui seront les plus aptes à enseigner, hein, à enseigner. D'ailleurs, regardez, on parle de subsistance. Regardez, on parle de subsistance. Après, chacun choisit sa position. On va terminer sur ça. Tout à l'heure, on parlait de subsistance. Après, chacun il choisit sa position. Parce que c'est vrai qu'il y a une divergence, mais il y a quand même la majorité des savants qui disent que tu peux enseigner les sciences, tu peux soigner, tu peux faire ruqya et prendre une contrepartie pécuniaire, financière. Si quelqu'un, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, que ce soit un frère ou encore plus une étudiante, qui veut rester tout le temps dans le rappel, qui veut rester dans le talab al-ilm, etc. Elle peut prendre un groupe d'enfants, un groupe de sœurs, je sais pas, 10 euros, 15, je sais pas. Et commencer à, mais attention, ça, à donner des, à faire des séances, des cours, voilà, ça peut se faire. Des petits cours d'arabe, des petits cours de ce que vous voulez. Mais attention, moi c'est un conseil que je vous donne pour ceux qui font ça ou qui veulent faire ça, la niya. Le shaitan, il va tout de suite, il va vous tomber sur le dos. Il va vous tomber dessus. Pour casser votre niya. Est-ce que tu le fais pour la dunya ou est-ce que tu le fais pour la da'wa? Alors il faut que tu mettes ta niya pour la da'wa. Le côté financier, c'est juste t'en as besoin ou voilà. Naam. Mais attention à la niya parce que shaitan, il va venir directement parce que c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte, c'est une fitna. C'est une fitna. Naam. Faire un programme pour enfants tawhid, alphabétisation d'arabe, c'est beaucoup pour les enfants, je pensais à ça. Mashallah. Attention, les enfants, ils ont des disques durs, attention. Hein. C'est parce qu'ils font les fainéants, ils font les perturbés, mais les enfants, ils ont un disque dur, Allah ibarak, hein. Attention. Hein. Il y en a au Yémen, c'était quel âge? Je ne sais plus si c'était 4 ans, 5 ans ou 6 ans, ils avaient mémorisé tout le Coran. Voilà, c'est une très bonne idée, mashallah, de s'entraîner déjà. C'est vrai qu'il faut s'entraîner. Il faut se lancer, il faut s'entraîner. Ça ne va pas venir comme ça du jour au lendemain, à part si Allah il a choisi quelqu'un. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Allez, tiens, j'y vais. Mashallah, mashallah. C'est formidable. C'est formidable. C'est mashallah. Si vous transmettez, c'est Allah ibaraka. Si vous transmettez, c'est le but, hein. C'est une ni'ma. Allah. Mashallah, c'est une ni'ma. J'en étais où? Donc voilà, ça, c'est une idée, hein. Franchement, c'est une idée. Mais comme je vous ai dit, attention. Attention, après, si vous comptez en faire quelque chose pour gagner votre pain, tout ça, faites attention, Shaitan, il va vous. Parce qu'il y a des gens, ça a fini par monter à la tête. Hein. Il y a des gens, ils ont ouvert des instituts. Quand ils ont vu que. Alors, quand tu commences à avoir, je sais pas, une centaine, 200, 300 grands instituts, là, ça fait rentrer. Hein. Et ça monte à la tête après. Ça peut monter à la tête. Donc, est-ce que tu fais pour Allah? Est-ce que. Donc, il faut faire très, très, très attention à ces choses-là, de pas se faire prendre dans le. Je me souviens, bon, après, il avait changé d'avis, hein, l'imam. Je me souviens d'un imam, une fois, il m'a dit moi, je fais pas imam dans une mosquée parce que j'ai peur que quand ils vont me donner. Ils te payent, hein, ils te payent des fois 2 000, 3 000 euros. Imam dans une mosquée, il disait moi, je veux pas faire parce que j'ai peur que ma niyya, elle change. C'était un prêcheur qui m'avait dit ça une fois. Bon, après, il n'a pas eu le choix. Hein. Il n'a pas eu le choix. Il l'a fait. Mais bon, il faut travailler sa niya. Hein. Faut bien vivre. Faut bien vivre. Rien que. Alors, si vous voulez les preuves comme quoi c'est permis et qu'il n'y a pas de souci, Wallahu a'lam, mais il faut bien travailler sa niya. On a mis un PDF. Quand on a ouvert l'institut, c'est la première chose qu'on a fait parce qu'on savait très bien que les gens, ils allaient. Les mal intentionnés, parce que ceux qui connaissent la religion, ils vont dire, il a le droit. Il a le droit. Et les savants et les professeurs à la Jamira, à Médine, ils font ça gratuitement. Subhanallah, il faut. Les sahaba, quand. Ça, c'est un des dalils que la majorité des savants utilisent. Les compagnons, lorsqu'ils se sont arrêtés dans une contrée, ils n'avaient rien du tout. Et qu'il y a un peuple. Au début, ils n'ont pas voulu les recevoir. Ils leur ont dit, vous pouvez nous nourrir, tout ça et tout. Ils ont dit non. Et après, il y avait leur chef ou je ne sais plus qui, quelqu'un qui est dans le village qui était malade. Et ils leur ont demandé, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui serait capable de soigner tout ça? Les compagnons, hein, ils ont dit oui, mais à contrepartie. À contrepartie. Et ils ont accepté tout ça et tout. Et voilà. Après, ils ont dit ça au prophète. Et je ne sais plus si c'est dans ce hadith-là ou un autre que le prophète a dit, il n'y a pas plus une chose qui mérite le mieux qu'on demande une compensation que le Coran. À peu près dans le sens du hadith. Ça veut dire que c'est permis. Les savants disent, quand tu fais ruqya, par exemple, j'ai vu des fatwas de savants, ils disent, tu fais ruqya, tu soignes les gens, tu fais des hijamas, des choses, des ruqya, tu les soignes avec trucs. Remède prophétique. J'ai vu des savants, ils disent tu peux, mais attention, faut pas commencer à fixer des prix. Faut pas commencer à fixer des prix parce que sinon, là, ça va devenir compliqué. Sinon, à la base, tu peux. La personne, elle vient, voilà, donne-moi ce que tu peux, donne-moi temps et tout. Mais si tu commences à fixer des prix, j'avais vu un savant comme ça qui disait, pour les hijamas, tout ça et tout, faut pas fixer de prix. Wallahu a'lam, après, il faudrait que je revoie la mas'ala. Il doit y avoir plusieurs avis, tout ça. J'ai pas bien tous les éléments, mais voilà. Donc, ça peut être une idée, hein. Parce qu'il y avait des étudiantes qui nous parlaient de comment cumuler avec le travail. Perfectionnez-vous et après vous pourrez peut-être faire ça. Après, c'est peut-être un petit peu plus difficile à notre époque parce que c'est pas comme avant. Avant, c'était vraiment simple, hein. Il y avait pas de, on pensait pas du mal de l'autre, on n'était pas jaloux. Donc, quand il y avait des gens calés, des frères ou des sœurs, on leur confiait nos enfants. Il n'y avait pas de souci. On savait qu'ils avaient un minimum. Ils étaient capables d'enseigner. Nous-mêmes, on l'a fait hein, quand nos enfants ils étaient petits à la mosquée avec un frère. Ils prenaient des cours d'arabe. Mais aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, les gens, ils sont pas pareils. Hein. T'as étudié où? Pourquoi tu te permets? Tu te prends pour qui? Je sais pas, des choses comme ça. Donc vous, il n'y a pas de souci. Hein. Vous êtes à l'institut, pour ceux qu'on considérera qui peuvent le faire, on leur dira, on est derrière vous, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vous. Alhamdoulilah, parce que les gens aujourd'hui, ils sont peut-être jaloux. Mais c'est pour ça qu'on n'avance pas. Hein. C'est une des raisons. Je fermerai la zoom, Inch'Allah, pas de souci. Une des raisons pour lesquelles on n'avance pas, c'est parce que la jalousie, non, toi, t'as pas le droit. Et en attendant, nos enfants, ils font quoi? Il y a qui enseigne à nos enfants? Combien de sœurs ils connaissent pas le tawhid? Combien de frères ils. Subhanallah. Pourquoi? Parce que. Alors, c'est vrai que c'est pas non plus tout le monde vient et. Mais à titre restreint, comme on a déjà dit, on prend quelques sœurs, on prend quelques enfants, on fait des. Il n'y a pas de mal à ça, subhanallah. Il n'y a pas de mal. Wallahu a'lam, wallahu al-musta'an. Austel, j'ai trois questions. Trois questions, mashallah, Cheikh Abdallah. Allah ibarak. Vas-y, pose tes questions. Hein. Pose tes questions. En tout cas, ceux qui veulent sortir, qui ont des choses à faire, ou les enfants, ou quoi, vous pouvez sortir du cours. Hein, ceux que vraiment on a dépassé la limite, vous pouvez. Sinon, ceux qui ont le temps, ils peuvent rester. On va répondre aux questions de Cheikh Abdallah. Cheikh Abdallah. Alors, Cheikh Abdallah. Désolé, je me rattraperai après 3. Aoustaz, peut-on regarder sur Internet les rêves qu'on fait ou non? Sur Internet. Ou non. Sur les sites dits islamiques. Parlant de rêve, sachant que ce n'est pas une science exacte, Allahu a'lam, et avez-vous un livre à cet effet? Peut-on guérir d'une maladie appropriée incurable par istighfar? Alors, la première question sur Internet, si tu ne sais pas à qui tu as affaire, ce n'est pas des gens connus pour ça, reconnus. Non, non, on ne peut pas prendre le premier venu et. Surtout sur Internet, c'est le terrain des. Internet, c'est le terrain des imposteurs, etc. Donc, non. Non. Deuxième chose, peut-on guérir d'une maladie a priori incurable par istighfar? On peut guérir d'une maladie incurable par istighfar, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, par d'autres causes, une forte confiance en Allah. Des invocations, on peut guérir. On peut guérir. Et il y en a qui ont guéri. Invocation, forte confiance en Allah, une sadaqa. Des sadaqa. Voilà. Istighfar, je ne sais pas, je dis Allahu a'lam. Je ne sais pas. La femme Mutabarrija entrera-t-elle au paradis et est-elle permis de l'épouser? Ça, c'est une bonne question. Arsallahu alaykoum, wa alaykoum salam, hayakallah, Cheikh Abdallah. La femme Mutabarrija, je réfléchis un petit peu. La femme Mutabarrija entrera-t-elle au paradis? Wallahu a'lam, il y a un châtiment pour la femme qui ne porte pas le foulard. J'ai oublié, mais il me semble que. La base, c'est qu'il y a un châtiment. Il y a un châtiment, elle sera punie. Il y a un châtiment, elle est désobéissante. Il me semble même, Allahu A'lam, qu'il y a la malédiction. Wallahu A'lam, il faut que je revérifie. Vous savez, toutes les informations, emmagasiné, des fois on ne se rappelle pas de tout, c'est voilà, c'est comme ça, qaddarallah, macha fa'al. Cette question, je te dis Allahu a'lam, et je vais vérifier. Je vais vérifier, faites-moi rappeler hein, si j'oublie. Est-il permis de l'épouser? Alors, on ne va pas dire que c'est interdit de l'épouser. On ne va pas dire que c'est interdit de l'épouser. Là, j'ai pas de. Wallahu a'lam, j'ai pas de. Je connais pas, Wallahu a'lam, de fatwa qui dit ne te marie pas avec la femme mutabarridja. Mais par contre, il n'y a pas de fatwa qui dit marie-toi avec la femme de qui mutabarridja non plus, hein, qui n'a pas le hijab. En gros, ce qu'on veut dire, c'est que l'idéal, c'est de se marier avec une femme qui est plus obéissante. Plus obéissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire une femme qui obéit à Allah et au messager. Parce que c'est une grosse désobéissance de ne pas porter le foulard. Alors, s'il y a des sœurs qui ne portent pas le foulard, on n'est pas en train de vous juger ou quoi que ce soit. Attention, on n'est pas en train de juger. Hein. À l'institut, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des sœurs qui ne portent pas le foulard. On n'est pas en train de juger, on est en train de répondre juste à une question. On ne porte aucun jugement. Qu'Allah guide tout le monde et qu'Allah facilite à tout le monde. Mais, Amin, non. Mais la femme qui ne porte pas le foulard, il faut savoir que voilà, c'est une désobéissance. C'est quelque chose de très grave. Il y a des savants qui disent que on la conseille. On la conseille. Et il y a même des savants qui disent que arrivé un certain temps, pendant longtemps, on lui fait nasiha, on la conseille. Si elle ne met pas le hijab, on la garde pas. Il y a des savants qui disent ça. Naham. Wallahu alam. On fera un détail, inshallah, si j'arrive à m'en souvenir, on fera un détail sur cette question. On vous ramènera les fatawas des ulama complètes. Cheikh Hakim, il a une question. Hayakallah, Cheikh Hakim. Aoustaz, j'ai une question, s'il vous plaît. Le Coran est descendu en entier et il est descendu par petits morceaux, c'est ça? En entier, ça veut dire qu'il est descendu en une fois. En entier, ça veut dire qu'il est descendu au premier cieux de cette dunya, puis il est descendu par petits morceaux. C'est exactement ça, oui. Oui, Cheikh Hakim. C'est ça. Naham. C'est ça, Cheikh Hakim. Hayakallah, Cheikh Hakim. Donc, Inch'Allah Ta'ala, peut-être, 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 hein, comme il y a. Avez-vous un livre sur les rêves? Ah oui, je t'ai oublié, Cheikh Abdallah, les livres sur les rêves. Wallahu A'lam, le livre de. Comment il s'appelle? Il y a un livre, mais les savants, ils disent que c'est pas authentique, tout ça. L'interprétation des rêves de. Il me semble que c'est de. Attends que je me souvienne, c'est de Ibn Sirin, si je me trompe pas. Ibn Sirin, Naam. Ibn Sirin, il y a des savants qui disent que c'est pas authentique, tout ça. Faut pas se référer à ce livre-là. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Inch'Allah Ta'ala, peut-être, peut-être vendredi, on fera une question, on fera une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions qui vous trottent, là, je vais voir ce qu'il y a dans le groupe où je mets toutes les questions. Il me semble qu'il y a des questions. Si vous avez des questions qui vous trottent, mettez-les sur vos groupes et vendredi on va essayer de réunir tout ce qu'on a comme questions, on va essayer d'y répondre inshallah ta'ala. Parce qu'à chaque fois je dis je vais répondre et j'oublie, j'oublie. Donc vendredi on va faire une session de questions-réponses, comme ça on va répondre à tout et voilà. Aoustez, avez-vous un livre sur les rêves? Moi j'ai pas de livre, non, sur les rêves. Ibn Sirin. D'accord, donc je ne prends pas ce livre, barakallahu fikoum. Non, vaut mieux éviter. Faut mieux éviter, Cheikh Abdallah. Faut mieux éviter. Naam. Donc ta question sur Mutabarridja, je vais la mettre. Je vais la mettre dans le groupe. Comme ça, vendredi, on essaiera de faire un détail sur ça. On essaiera de faire un détail sur ça. Donc je m'excuse vraiment. On a tardé aujourd'hui. Je m'excuse vraiment. Aujourd'hui, on a tardé. Vous m'excusez vraiment, hein. C'était pas, je voulais pas vous prendre du temps, je sais qu'il est tard. Barakallahu fik, Cheikh Hakim, hayakallah, mashallah. Barakallahu fikoum. Non, il n'y a pas de souci, Cheikh Abdallah. Il n'y a pas de souci. C'est bien de poser des questions. Amin, barakallahu fikoum. Hayakoum Allah, en tout cas. On se donne rendez-vous, inshallah, au ta'ala, demain, pour des nouveaux cours. Hein. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakoum Allah. Alors, comment je vais fermer la Zoom? Tamam.